Bonjour, Éric Bodichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel.
Il m'a fallu un grand courage pour faire cette émission. C'est peut-être un paradoxe, ou peut-être le symptôme de la sécheresse de ce qui reste purement conceptuel. Une rêverie. Je vous invite à un voyage autour du courage. Le courage n'est qu'un mot, alors c'est par son contraire, à savoir le découragement, que je vais commencer. Cet affect est d'actualité avec la véritable épreuve que nous traversons depuis 2 ans. Devant tous ces désordres autour de nous, la souffrance qu'a pu engendrer la crise du Covid, qui doit plus au traitement politique qui en a été fait que le virus lui-même qui vit sa vie de virus, pour lui consistant à entrer dans le maximum d'organismes et d'y prospérer, on aurait envie de baisser les bras, de se replier sur une île déserte. Or, comme le montre bien Robinson Crusoe, le roman de Defoe, une île déserte est toujours peuplée d'un autre, même hypothétique, sans quoi le héros ne se lèverait pas le matin, ne mettrait pas tant d'énergie, tant de courage à tenter malgré tout de poursuivre la civilisation qui jusque-là encadrait sa manière d'habiter le monde, sous peine de devenir fou. La tentation, la possibilité d'une île, comme dirait l'autre, est une illusion. Robinson finira par rencontrer un autre, l'autre incarné sous la forme radicale du sauvage, « sauvage » entre guillemets, c'est-à-dire le non-européen qui n'est pas plus sauvage que nous sommes toujours civilisés, rend compte de l'étrangeté foncière d'un autre différent de nous. Robinson l'appellera vendredi, en mémoire du jour de cette rencontre. L'esprit colonialiste transparaît dans le nom donné à l'autre, vendredi, dans la langue qui est celle du maître. C'est l'européen qui mène le jeu, sous couvert d'une prétendue supériorité. La différence entre le monde de Robinson et le monde de Vendredi rend une échelle de valeurs commune impraticable. Robinson désespère, se décourage, peu de temps, puis à force de courage finit par recréer sur cette île perdue une réplique du monde qu'il a quitté de force. Comme le cheval blanc de Paul Fort, mis en musique par Brassens, malgré le mauvais temps, Robinson persévère, tire son fardeau sans broncher, sans se plaindre. Il est courageux, au sens où il fait le pari difficile, car cela lui demande une énergie folle de continuer à vivre, comme s'il était toujours dans son pays, son Heimat. Il traduit la difficulté d'être exilé. Alors, courage, cheval blanc.
Le petit cheval dans le mauvais temps, il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière lui, devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui, devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant.
S'il est une vertu vraiment révolutionnaire, ce fut celle du courage. Aujourd'hui, tout le monde est républicain, c'est-à-dire que plus personne ne l'est vraiment. Mais il faut se replacer, sans quoi l'histoire n'a pas de sens autre que de légitimer les pensées qui ne tiennent pas debout, leur donner une apparence de vernis, il faut se replacer, dis-je, dans le contexte. La grande révolution de 1789, qui fut à la naissance d'une autre conception de la politique, où le sujet forcément jusque-là soumis à l'autorité du monarque, fut remplacé par le citoyen ayant des droits et non plus seulement des devoirs, devait lutter à la fois contre les ennemis intérieurs, l'Église comme institution validant l'arbitraire royal et la noblesse vivant sur l'existence de privilèges exclusifs, et aussi à l'extérieur, se défendre contre les royaumes autour qui voyaient l'émergence de ce sens nouveau comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, d'où les grandes batailles où l'armée révolutionnaire, composée pourtant de briques et de brocs, réunie à la hâte, parfois en guenilles, pieds nus, tint tête à de grandes armées entraînées et puissantes.
Das ist deine erste Lehre.
Ici, le courage fit des miracles. Il y a dans la vertu des affects jumeaux. En effet, le courage du pauvre soldat sans rien, qui pourtant défend sa nouvelle patrie, fier de la liberté acquise au péril de sa vie, le courage fraye-t-il son chemin avec la joie. Le courage est la joie du courage, énergie qui déplace les montagnes, et courage de la joie. Très tôt, vers 6 ans environ, je me suis dit « soyons joyeux malgré tout ». Pour apporter du bonheur, et c'est une constance, un choix délibéré de distraire l'autre, de le faire sourire. Constance qui demande, bien sûr, un certain courage. Une politesse non pas du désespoir, mais de l'espérance. Peu de choses pour que le monde soit plus vivable, l'air plus respirable, l'ambiance plus légère, plus insouciante, plus gaie. Voilà donc le fameux chant du départ, chant révolutionnaire par excellence, puisque le titre même du départ indique cette nécessité de quitter la quiétude, de laisser derrière soi les joies du foyer pour défendre par mont et par vaux, coûte que coûte, son pré carré, l'arbre naissant de la liberté.
Les ennemis de la France, roi du repoussant.
Ah, quelle énergie, le courage, la joie, mais toujours articulée, la notion de justice. Justice sans laquelle le courage laisserait le champ libre à la violence gratuite sans but supérieur à elle. Aussi, la chevalerie, au Moyen-Âge, si elle s'inscrit sur un fond de violence, le chevalier est d'abord un guerrier, est aussi porteuse de valeurs morales sans lesquelles elle n'aurait pas cette aura. La chanson de geste qui fixe cet archétype du chevalier fidèle à son roi est la fameuse chanson de Roland. Il en existe de très nombreuses versions. Pour reprendre l'émission du mois dernier sur le tissage, remis indifféremment sur le métier. Celle que j'ai retenue est basée sur un manuscrit écrit à la fin du XIe siècle en langue dite anglo-saxonne, l'une des branches de l'arbre touffu de l'ancien français. Roland, malgré le nombre des ennemis qui l'assaillent, combat jusqu'au bout, car il a donné sa foi, la fidélité qui organise le rapport entre vassal et suzerain, à son roi. À la fin, on le voit tenter de briser son épée, l'épée qui a servi à l'adoubement, afin d'éviter l'indignité de laisser à l'ennemi l'arme sacrée. Frappez, Francs, le premier coup est nôtre. Frappez, Francs, nous les vaincrons. Frappez, Français, que pas un de vous ne s'oublie. Le premier coup est notre Dieu, merci. Baron, quel malheur, comme les nôtres meurent. Charles, c'est le roi, l'entend. Ce corps à longue haleine, armez-vous, sire, criez votre devise, et secourez votre noble maison, vous entendez assez la plainte de Roland. C'est Charles qui arrive. À l'aide ! Nous n'avons plus qu'à nous enfuir. Roland s'en va. Il parcourt seul le champ de bataille. Lui-même sent que la mort lui est proche. Les puits sont hauts. Hauts sont les arbres. Il y a là quatre perrons, tout luisants de marbre. Par grande douleur et colère, il y assène 10 forts coups. L'acier grince, mais point ne se rompt ni ne s'ébrèche. Roland frappe une seconde fois au perron de Sardaigne. L'acier grince, il ne rompt pas. Ses brèches point. Pour la troisième fois, Roland frappe sur une pierre, bise, l'épée grince, mais ne rompt toujours pas. Le comte Roland est là, gisant sous un pin. Il a voulu se tourner vers l'Espagne. Alors, la tête s'est inclinée sur son bras, et les mains jointes, il est allé à sa fin.
Dieu, pardonne-moi mes péchés, les grands et les petits que j'ai faits depuis l'heure où j'ai naquis jusqu'à ce jour où mes vassures abattues. Toi qui remplaces Saint-Lazare d'entre les morts, toi qui sauva Daniel le lion. Sauve l'âme de ton serviteur de tout le péril de l'enfer.
Thank you.
Le courage, et c'est pourquoi nous l'illustrons par le récit d'une bataille, ne prend son sens que dans un rapport à l'autre. En effet, dans le champ éthique, où seul le courage prend son sens, ce dernier n'a de portée réelle que baigné par et dans l'action. Autrement dit, comme nous l'avons signalé en introduction, le courage sans le contexte dans lequel il agit reste un concept vide. Seul un événement peut témoigner en creux du courage des protagonistes. Qui peut dire « je suis courageux » sans s'exposer au ridicule ? Si moi-même je déclare « je suis courageux », je me vante et j'énonce une généralité sans consistance. On me demandera alors, là on se rapproche du vrai, « qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour prétendre à l'être ?» Aussi, comme dans le champ esthétique, où ce n'est pas à l'artiste de dire que ce qu'il fait est beau, mais au spectateur au sens large, eh bien c'est la même chose avec le courage. Le courage est une vertu qui a besoin d'un regard extérieur et pourrait-on dire un regard surplombant, un au-delà. Pour nos chers Grecs, le courage était la vertu suprême. C'est celle sans qui toutes les autres vertus seraient démonétisées. Le courage réveille le sujet, lui donne la force d'y aller, de se confronter à la diversité en mettant dans la balance sa propre mort. Je le répète, au risque de tomber dans le ridicule que je dénonçais, mon courage dès l'âge de 6 ans fut d'être d'humeur égale et d'amuser mon prochain. Ce courage porte un nom, c'est l'humour. J'en ai trouvé une illustration parfaite dans cet air « À quel plaisir d'être soldat » tiré de l'opéra de Boieldieu, « La Dame Blanche », musique qui parfaitement et avec une énergie communicative reprend la geste révolutionnaire, référence à l'Antiquité, énergie de créer un nouveau monde, nouveauté qui nécessite un retour éclairé aux racines gréco-romaines. L'homme nouveau prend racine dans le passé et ainsi relié à l'histoire de la pensée qui l'a précédée, en retire le meilleur pour inventer autre chose.
À quel plaisir d'être soldat, ah, à quel plaisir, à quel plaisir, à quel plaisir d'être soldat, ah, à quel plaisir d'être soldat, ah, à quel plaisir d'être soldat, ah, à quel plaisir d'être soldat.
Le courage demande donc une recherche d'exemples parlants. Elle ne peut faire l'impasse sur ce que la vie de certains héros a d'exemplaires au sens d'une illustration parfaite du courage et par la constance et le côté irréductible de ce courage. L'admiration propice à propager cette bonne nouvelle. Le courage élève l'homme, dissout l'empire du mal fondé sur la violence brute. D'emblée, je pense, pour commencer une série de vies exemplaires, à deux grandes figures qui préférèrent assumer leur mort que de céder sur l'essentiel, Socrate et Jésus. Dans les deux cas, un coq pour l'un, Socrate est sacrifié à un nouveau dieu du panthéon grec à l'époque de la mort de Socrate, Asclépios. Pour l'autre, Pierre, le chant du coq vient ponctuer le reniement du meilleur d'entre tous les apôtres. Dans les deux cas, notre fragilité et notre inconstance sont mises au premier plan. Les disciples de Socrate pleurent un peu bêtement la mort du maître qui souligne par son sacrifice à Asclépios, plutôt la mort que le bannissement, l'importance du rituel qui nous lie à la vie de la cité. Et Pierre, lui, n'est pas capable d'accompagner et de défendre celui pour qui, pourtant, il a tout quitté. Au moment le plus critique, Pierre tourne le dos au bien, fait ombrage à la loyauté. Il fait alors l'épreuve du mal et du pouvoir obscur de la lâcheté, au sens où il lâche son maître et porte à son tour le pouvoir écrasant de la culpabilité. Lorsqu'on se sent coupable, le courage n'est plus là comme force, comme moteur, pour dépasser l'immobilité et la mort dans la vie. Car si Socrate et Jésus ne rechignent pas à mourir, c'est qu'ils connaissent la vérité d'une existence digne de ce nom. Mourir n'est rien, mais agir contre la vie est une mort bien plus terrible, puisque la vie se voit radicalement mutilée de ce qui la rend vivante. Autre illustration du courage dans la Bible, la fuite de Marie et Joseph avec l'enfant Jésus en Égypte, faisant écho habilement à la déportation des Juifs en Égypte, admirablement mise en musique par notre grand Berlioz. Parlons aussi de Dreyfus, le capitaine Dreyfus qui resta des années au bagne malgré son innocence, toujours droit dans ses bottes, n'ayant jamais eu aucun ressentiment ni envers l'armée qu'il avait trahi, ni envers la France qui pourtant l'avait traîné dans la boue, considéré comme un traître, un paria. Lorsque je vis la première fois au musée juif de Paris les insignes que la famille Dreyfus avait religieusement conservés et qui était exposé dans une vitrine, la vision de cet homme qui dut subir l'épreuve de la dégradation, qui fut aussi une dégradation morale, déclencha chez moi une grande émotion. L'affaire Dreyfus, que certains voudraient rouvrir comme une boîte de Pandore, alors qu'il est entendu, un, que Dreyfus était innocent de ce qu'on l'accusait, c'est-à-dire d'intelligence avec l'ennemi, et deux, et que forcément coupable, même, et c'est là la dignité des accusateurs, lorsqu'il fut prouvé que toutes les preuves étaient fausses et fabriquées, il était coupable parce que juif. Qu'un juif lui-même, aujourd'hui, dont je ne donnerai pas le nom, pour ne pas lui faire de publicité, renoue avec cette infamie, traduit bien la déliquescence éthique à l'œuvre aujourd'hui. Il est l'héritier des collaborateurs les plus actifs qui ont pactisé avec le nazisme, orienté principalement par la haine du juif, considéré comme un sous-homme. Or, l'humanité ne se partage pas. Nous sommes tous des humains. Et ce que nous partageons, c'est justement notre humanité. Humanité, le plus beau mot de la langue française, puisqu'il désigne à la fois tous les hommes sans distinction, mais aussi le cœur de notre espace éthique, espace que l'homme seul peut investir, puisqu'il est l'envers de sa possibilité d'être guidé par le mal, la destruction de l'autre en miroir à la haine de soi.
Thank you.
Et pour terminer, un exemple criant. Lorsque le courage ne s'articule qu'à la justice et à un dépassement de soi. Le Polonais Janusz Korczak, né le 22 juillet 1878, mort le 6 août 1942. Médecin, pédiatre, éducateur, pédagogue, écrivain polonais. Avant la Seconde Guerre, il est une des figures de la pédagogie de l'enfance. Il choisira d'être déporté à Treblinka avec les enfants juifs de son orphelinat. Le plus bel hommage est celui du grand psychanalyste Bruno Bettelheim, qui, dans De la Bible au Talmud, nous dit « Le fait que Korczak ait volontairement renoncé à sa vie pour ses convictions parle pour la grandeur de l'homme. Mais cela est sans importance comparé à la force de son message. » Décidant d'accompagner jusqu'au bout les 200 enfants de son orphelinat à Treblinka, il est assassiné dès son arrivée, le 5 août 1942, dans les chambres à gaz. Heureusement, nous avons des témoins qui ont raconté le départ du ghetto. Et un de ces témoins est Władysław Szpilman, le héros du film Le Pianiste de Polanski. Korczak, nous dit-il, tient les enfants par la main. Il sait ce qui les attend. Mais par son acte qui dépasse l'instinct de survie, il montre aux yeux des nazis, aux yeux du monde, à nos yeux, le pouvoir de l'amour, la grandeur de l'humanité, qui n'est pas, comme on pourrait le croire, se suffire de l'angoisse, de la douleur, mais bien au contraire, mettre en lumière, même dans des circonstances effroyables, ce qui dépasse la sphère du malheur pour transcender l'emprise de la dérélection. Alors ici, dans l'éthique, mise en acte, le fait de croire ou de ne pas croire ne veut plus rien dire. À la croyance se substitue entièrement l'action. Et précisément, l'action est tout, parce qu'elle ouvre l'au-delà de la nuit. Alors, Korczak nous donne un exemple de courage incroyable devant l'injustice, le massacre des innocents, l'horreur du monde. En l'occurrence, le monde déshumanisé que réalisaient les nazis, hiérarchie absurde parmi les hommes, déshumanisation systématique des esprits, ravalement de l'existence à la sphère biologique. Le courage ouvre donc une brèche et oppose à ces figures grimaçantes le lien avec les autres, l'aspiration vers plus d'humanité, la prise en compte de notre dimension spirituelle. Alors, mes chers amis, du courage. Je remercie Simon Martin à la technique et au mois prochain pour une émission plus légère, quoique un peu acide, consacrée aux oranges.